Cam, le palais des sept chambres. Il était une fois un pays du côté de l'Orient, là où les nuits sont immenses et ponctuées d'étoiles, là où les yeux s'émerveillent de l'envol d'un papillon, du lent cheminement d'un cirque sur le sable brûlant, d'un éclat de soleil sur la pierre ou le fer d'un ciseau. Il était une fois un maître, un mage, un philosophe. Il était une fois une jeune femme et un oiseau bleu. Il était une fois une histoire, et si vous me le permettez, je vais vous la raconter. C'était un jour de plein soleil, un de ces jours comme il peut en pleuvoir 1000 ou 10 000 dans un pays si chaud qu'il implore à chaque instant le réconfort d'un voile d'ombre. Ce jour-là, Yasmina était en route vers l'oasis, perchée bien droite sur le dos d'un chameau qu'un vieil homme, assis au bord d'un chemin, lui avait laissé en échange de quelques pièces usées. Une heure de route avait suffi pour faire de ce coursier paisible son ami et pour qu'elle lui trouve un nom, car les êtres chers au cœur de l'homme, là où réside le reflet du divin, se doivent de porter un nom. Yasmina n'eut pas à s'interroger bien longtemps. Une lumière vive comme l'éclair heurta son esprit et le lui révéla. Il s'appellerait Kali, avec deux L. Kali, avec un seul L, n'eût pu convenir, c'est un démon terrible. Kali est plus effroyable encore. C'est la déesse noire, la septième langue d'Annie. Et la pauvre bête qui emmenait Yasmina à travers l'océan rougi du désert n'avait rien d'un dieu. Ce n'était qu'un modeste camélidé, l'ébauche d'une âme fragile au service d'une multitude de maîtres de passage. Kali, la terrible, pouvait s'enorgueillir de quatre bras. Le chameau de Yasmina, en honnête quadrupède, ne disposait que de quatre longues pattes et d'un dos creusé par deux énormes bosses, entre lesquelles la jeune fille tentait, tant bien que mal, de garder son équilibre. De temps à autre, Yasmina encourageait Kali de sa voix douce. Elle lui murmurait un petit mot gentil à l'oreille, en darija ou en misria. La jeune fille ayant beaucoup voyagé, elle avait acquis la science de la plupart des dialectes du monde arabe. Son nouveau compagnon comprenait ces mots, en saisissait au moins la portée affectueuse et protectrice. Il secouait alors la tête et mâchouillait quelque figurie inintelligible pour la remercier de cette sollicitude à son égard. Ce jour-là, donc, Yasmina était en route vers l'oasis, et l'oasis était bien plus qu'une simple oasis. C'était la résidence d'un mage exceptionnel, d'un mage unique, comme il n'en existait probablement nulle part ailleurs sur la surface de la terre. Cet homme, ce sage parmi les sages, avait reçu du ciel le cadeau ineffable d'un millier de vies. Mais il était dit dans l'oracle que le temps était venu pour lui de partager la richesse de ses secrets. Yasmina avait appris le nom de ce mage au détour d'un rêve étrange. Une nuit, elle vit en songe un livre nimbé d'une aura flamboyante. Elle s'en approcha avec une légère crainte, le prit délicatement dans ses mains et l'ouvrit. Le livre était léger, peu épais. Il ne contenait qu'une vingtaine de pages et semblait très ancien. Elle ne put le déchiffrer, son écriture lui étant totalement étrangère, parsemée de hiéroglyphes et de signes mystérieux. La jeune fille en conclut que ce petit livre à l'écriture hermétique devait être un ouvrage sacré. Seule la première page était écrite dans sa langue maternelle et Yasmina eut l'étrange sensation qu'on l'avait tout spécialement rédigé pour elle. L'avant-propos affirmait qu'il suffisait de souffler sur les pages pour en rendre le contenu parfaitement compréhensible. Très intriguée, Yasmina ouvrit le livre en plein milieu et tenta l'expérience. Un tourbillon multicolore se mit à danser devant ses yeux. Et lorsque ce bouillonnement de couleurs s'estompa, le sens des lettres et des graphismes sibyllins qui noircissaient la page lui fut révélé. Elle referma le livre, toute perplexe, souffla cette fois sur la couverture pour en découvrir le titre. Un nouveau tumulte chamarré lui brouilla la vue pour lui apprendre l'instant d'après qu'il s'intitulait « Au-delà des nuages » et qu'il était l'œuvre d'un certain Abin Abbas. Mais ce n'était pas tout. Une ajoute manuscrite invitait la personne qui serait en possession de ce livre de rendre visite à son auteur. Une nuit, le chemin jusqu'à sa demeure lui serait dévoilé. C'est alors que Yasmina se réveilla, provoquant la rupture de ce rêve pour le moins singulier. Le livre et Abin Abbas tinrent promesse. Quelques jours plus tard, dans le flou de ces heures troubles qui annoncent l'imminence de l'aube, Yasmina fut à nouveau guidée dans son sommeil jusqu'à ce fameux livre où il lui fut exposé l'itinéraire à suivre. C'est ainsi qu'un matin, très tôt, la jeune fille referma la porte de son petit appartement et prit à pied la direction du désert avec un gros baluchon. Après avoir traversé la ville et dépassé les derniers faubourgs endormis, la jeune fille emprunta cette direction vers l'est, dont les repères lui avaient été transmis lors de son dernier songe. Environ une heure plus tard, elle rencontra un vieillard solitaire au bord d'un chemin. L'homme était assis sur un lit de feuilles séchées et semblait l'attendre là depuis des siècles. Et lorsqu'il lui eut vendu son chameau, il disparut comme par enchantement de sa vue, un peu comme si sa présence en ce lieu n'avait été qu'une péripétie de plus nécessaire à l'aimable suite de cette histoire. Yasmina se hissa sur sa nouvelle monture et reprit sa route. Elle savait qu'elle aurait une très longue distance à parcourir, que les journées seraient torrides et les nuits fraîches. La jeune fille savait, en effet, depuis l'enfance, les humeurs contrastées du désert. Pour s'en prémunir, elle fit une courte halte au souk d'une palmeraie, comme échouée en avant-pointe de l'immense plaine aride. Elle y acheta deux couvertures, de l'orge, du mil, de la farine de maïs et quelques boîtes de dattes al-ajoua en provenance de Médine. Un marchand lui proposa du lait de brebis, mais Yasmina refusa. Elle n'aurait pu le conserver bien longtemps en raison des fortes chaleurs. En revanche, elle fit remplir deux jarres d'eau qu'elle accrocha au flanc de Kali. Ses provisions l'aideraient à poursuivre son voyage au pays des nomades, sans craindre de se retrouver le ventre creux et la langue asséchée. Et les trois premiers jours passèrent. Chaque matin, après son frugal petit déjeuner, Yasmina repliait proprement sa couche et reprenait courageusement la traversée du désert, l'œil rivé sur sa carte et sa boussole, bien avant que le soleil ne lui brûle la peau quelques heures plus tard par le feu intense de ses rayons. 5 jours lui furent nécessaires pour parvenir à son but. Au soir du 5e jour, alors que le soleil venait tout juste de s'évanouir derrière la terre et qu'elle s'interrogeait de plus en plus sur le bien fondé de ce voyage entrepris sur la seule injonction de ses rêves, les restes d'un horizon rougeoyant lui offrirent la vue indistincte d'une bâtisse qui élevait 4 tours majestueuses. Yasmina la prit d'abord pour un mirage, tant elle était fourbue et que ses yeux étaient meurtris par le sable. Mais ce qu'elle avait d'abord pris pour une illusion des sens n'en était pas une, et plus elle avança, plus l'image de cette bâtisse se raffermit pour prendre des contours et une apparence tangible. Yasmina n'eut alors plus aucun doute. Sa carte et sa boussole l'avaient menée à bon port. Elle était aux portes du palais du mage. Yasmina s'arrêta à bonne distance de la bâtisse et installa son campement. Elle passerait une autre nuit dans le désert et attendrait le lendemain pour se présenter au mage. Il lui fallait réfléchir, méditer, s'imprégner de cet instant solennel. Et l'aube alluma la suite de ce récit. Yasmina ne remonta pas sur le dos de Kali. Elle ferait les derniers pas qui la séparaient de la demeure du mage à ses côtés, se présenterait à celui qui l'avait attiré jusqu'ici de la plus humble des manières. Abin Abbas l'attendait debout à l'entrée du palais et dans une tenue dépouillée. Il portait sur lui une simple djellaba de couleur ocre. Ses pieds nus étaient chaussés de sandales. On eût pu le prendre pour un chamelier, si ce n'est qu'un épais turban blanc orné d'un kalsa enserrait son crâne, affirmant son appartenance à la religion sikh. Bienvenue dans mon palais, fit le mage en avançant vers elle et les yeux chargés d'une lueur bienveillante, comme si cette rencontre était le lieu d'heureuses retrouvailles. Viens, tu dois être éreinté et mourir de soif. Emmène ton compagnon au cœur de l'enceinte. Je lui ai préparé de l'eau fraîche. Il pourra se désaltérer et se reposer à l'ombre d'un palmier. « Il s'appelle Kali, avec 2 L, » précisa la jeune fille. « Je sais, » fit le mage, « c'est moi qui t'ai suggéré ce nom. je l'ai dictée à ta pensée. » Yasmina en fut sidérée et lui vint à l'esprit une foule de questions. « Et ce fameux rêve qui m'a révélé votre livre, votre nom ? Et le suivant qui m'a indiqué le chemin jusqu'ici ? Est-ce que vous en êtes l'auteur ?» Abinabas partit d'un grand éclat de rire avant de confirmer la justesse des supputations de la jeune fille. Puis il reprit un air plus cérémonieux et lui dit « Suis-moi, c'est par ici !» Yasmina emboîta les pas de l'homme sans âge, car, aussi incongru que cela puisse paraître, Abinabas ne paraissait ni jeune ni vieux. Un peu comme ses vêtements à taille unique, il arborait une sorte d'âge passe-partout, sur lequel le poids des ans devait avoir rebondi sans conséquence. Et le mage n'avait pas fini de la surprendre. La jeune fille fut invitée à franchir une vieille porte au relief incrusté d'arabesques en or. Celle-ci la précipita dans l'enceinte interne du palais. Et lorsqu'elle releva la tête, ses yeux s'émerveillèrent de la vue rapprochée des quatre tours d'angle qui s'élançaient telles quatre flèches invincibles vers le ciel. Elle soupçonna la plus haute d'entre elles de se perdre la nuit dans le ciel étoilé. Le chemin, bordé de grosses pierres rondes qu'ils empruntèrent, ressemblait à un labyrinthe entrecoupé par des arcades de haies étonnamment verdoyantes dans ce lieu aride. Kali fermait la marche, apparemment très heureux de faire partie des invités. Le trio arriva devant l'entrée principale de l'édifice. Abinabas invita Yasmina à le suivre jusqu'à une grande véranda qui offrait à travers ses larges vitres la vue d'un jardin luxuriant où s'épanouissaient sept oliviers pendant que Kali attendrait dehors. « Thé à la menthe, jus de figue ou d'orange ?» demanda le mage fort courtoisement. « Un thé me comblera !» s'empressa de répondre Yasmina. « Je reviens, installe-toi où tu le souhaites !» Le mage partit chercher les boissons et la jeune fille alla s'asseoir sur un amas de coussins placés à proximité d'une fontaine intérieure qui envoyait des vapeurs d'eau rafraîchissantes dans les airs. « Mais d'où vient toute cette eau ?» demanda Yasmina à son hôte lorsqu'il revint avec un plateau chargé d'une théière et de deux jolis bols en faïence. « De nulle part, tu dois bien t'en douter. Ce désert n'en fournit pas, mais cela ne pose aucun souci. » Et sans lui donner de plus amples explications, le mage poursuivit. « À ta santé et aux centaines de vies qui nous séparent, » fit-il en levant son bol et sans donner la moindre explication de ce souhait pour le moins étrange. « Bienvenue au royaume terrestre des dieux. À propos, as-tu fait bon voyage ?»« Excellent, mais à vrai dire un peu long et fort éreintant, » avoua honnêtement Yasmina. Tu auras tout le loisir de te reposer dans les meilleures conditions. Il règne ici un silence et une quiétude paradisiaques. Personne ne te dérangera. Je suis le seul occupant des lieux et je mène une vie très tranquille depuis fort longtemps. » Fini par laisser tomber Abinabas. Je n'en reviens toujours pas, dit la jeune fille. De toute cette histoire, de la précision de l'itinéraire reçu, de me retrouver aujourd'hui devant vous, dans l'enceinte de ce palais sublime, de ce véritable joyau planté en plein désert. J'ai l'impression que mon rêve se poursuit. Mais la vie n'est qu'un rêve, Yasmina, une illusion passagère, une ombre fugace à l'effigie du temps qui ne cesse de courir tel un lièvre égaré. Après tout ce qu'il venait de lui dire, la jeune fille n'était nullement étonnée que le mage connaisse son prénom sans qu'elle ait eu besoin de le lui révéler. Très heureuse aussi de la familiarité qu'il avait adoptée d'emblée avec elle. « Me permettez-vous de descendre ma charge et de me rafraîchir ? Mon corps n'a plus touché l'eau depuis plusieurs jours. »« Je vais t'indiquer ton appartement, » fit le sage en se levant. « Il se trouve à l'étage. » Tu y trouveras le meilleur confort. » Le mage n'avait pas menti. Les yeux de Yasmina n'avaient jamais vu de chambre aussi luxueuse. Cette dernière était splendide. Au centre du plafond trônait une large coupole en cristal qui surplombait les murs décorés de fines mosaïques. L'ensemble représentait des arbres aux branches verdoyantes, à l'extrémité desquels scintillaient des diamants et des perles de couleur rappelant des fruits mûrs. Entre chaque arbre, des fleurs gracieuses, aux corolles ouvertes, prenaient naissance au cœur de feuilles d'or. L'ameublement, d'une symétrie et d'un goût parfait, était fait de bois de cèdre et ciselé d'ornements délicats. Et pour couronner le tout, un doux parfum d'encens, de myrrhe, mêlé à des effluves de jasmin, voyageait à travers toute la pièce. « Cette chambre te convient-elle ? » s'enquit le mage. « Jamais je n'en ai vu de plus belle !» répondit Yasmina au comble du ravissement. Elle est prolongée de deux autres pièces. L'une est la salle de bain avec ses commodités. L'autre est un salon de lecture. Toutes gardent jour et nuit une température idéale. « Vous disposez de l'air conditionné ?» demanda la jeune fille de plus en plus perplexe. Le mage s'esclaffa. « Il n'y a pas plus d'air conditionné ici que d'eau courante, » répondit-il. « Cela n'est pas nécessaire. Tous ces avantages sont le fruit de la grâce divine qui souhaite me combler d'aise pendant l'exercice de mes vies sur terre. Et j'espère que la folie des hommes me permettra de les achever toutes sur cette planète. Mais je te laisse, rien ne presse. Prends ton temps, je reviendrai te chercher plus tard. » Avant de s'éloigner, Abinabaz ajouta « Ah oui, une chose encore d'ordre pratique, mais nécessaire à nos corps soucieux de nourriture terrestre. » Abinabaz tendit à Yasmina une petite télécommande arrondie, munie d'un écran tactile. « Il te suffira de choisir ton menu et tes boissons par cet intermédiaire et tu les recevras promptement dans ce meuble de cuisine. » Le mage désigna du doigt un mini-four encastré dans un buffet placé dans l'angle de la chambre, laissant la jeune fille à son plus vif étonnement. Une fois de plus, elle n'en revenait pas. Il y a moins d'une semaine, elle végétait dans un petit appartement au mur mitoyen, renvoyant les disputes des voisins et les pleurs incessants de leurs enfants. Aujourd'hui, elle était l'invitée d'un mage et d'un palais majestueux qui distribuait des repas instantanés. La salle de bain était spacieuse, munie d'un lave-linge et de tout le nécessaire pour la toilette. Yasmina fit couler un bain. L'eau était délicatement parfumée et d'une température idéale. Elle ôta son jean délavé, son t-shirt, ses sous-vêtements, jeta sur un tabouret la capuche en coton qui l'avait protégée du soleil durant tout le temps de son voyage et plongea dans la baignoire. Un vrai bonheur. Finalement, même si son voyage n'avait pas été de tout repos, elle ne regrettait pas d'être venue. Elle avait eu raison d'écouter ses rêves et de venir rendre visite à Abinabaz dans son palais des mille et une douceurs. Après ses ablutions, Yasmina défit les nœuds de son bagage afin d'en retirer une jolie robe. Elle ne pouvait se présenter à nouveau n'importe comment devant le mage. Il aurait pu la prendre définitivement pour une hippie ou une chanteuse de rock'n'roll. Une grande fenêtre donnait sur la cour arrière du palais. Kali était en train de brouter tranquillement un restant d'herbe à l'ombre d'un palmier où le mage l'avait conduit. La jeune fille, qui n'avait encore rien avalé de la journée, prit la télécommande et parcourut les menus proposés. Tous étaient végétariens. Elle opta pour des croquettes de soja accompagnées d'un pâté d'épeautre, une salade aux amandes et un verre de jus de grenade. Comme dessert, elle pointa les cornes sablées aux noisettes. Ce repas fut un délice, et le buffet magique récupéra son verre et son assiette vide sans qu'elle dût s'occuper de faire la vaisselle. Un lit confortable était à sa disposition. Yasmina n'avait aucune raison de ne pas en profiter séance tenante. Le mage ne viendrait certainement pas la déranger. Les dernières nuits l'avaient privée d'un vrai sommeil réparateur, son corps ayant dû se contenter d'une couche sommaire hâtivement creusée dans le sable. La jeune fille s'allongea sur le couvre-lit avec l'idée de somnoler une petite demi-heure. Finalement, sa montre indiquait 6 heures du soir quand elle rouvrit les yeux. Le mage ne s'était pas manifesté. Il avait respecté sa longue sieste. En attendant son retour, il ne lui restait plus qu'à faire un passage par la pièce attenante qui servait de salon de lecture. Elle posa le pied à terre et mit cette bonne résolution à exécution. La bibliothèque était constituée d'une multitude de livres serrés les uns contre les autres. La plupart étaient des ouvrages philosophiques, ponctués de symboles totalement abstrus pour elle. Beaucoup ressemblaient à ce fameux ouvrage aux lettres d'or que Yasmina avait aperçu dans ses rêves. Seuls deux ou trois étaient écrits dans un arabe contemporain. Elle retira l'un des volumes et l'ouvrit au hasard d'une page. Il s'agissait d'une conversation entre un maître spirituel et son scribe. Ce dernier demandait « Dieu est-il extérieur ou intérieur à soi ?» Suivait une réponse concernant le rapport étroit entre le tout indissociable, l'un et ses déclinaisons multiples à travers les âges. Le maître affirmait « Quand tu auras transmuté le « deux » en « un », que le dedans sera comme le dehors et l'en haut comme l'en bas, tu seras alors fils ou fille de l'éternité. » Yasmina était occupée à remettre soigneusement le livre à sa place quand le mage frappa à sa porte et pénétra dans sa chambre suite à son invitation. « J'espère ne pas t'importuner, » fit le mage. « Du tout, » répliqua la jeune fille, « je vous attendais. » « Ta chambre ne dispose pas de téléviseur. Je n'en vois guère l'utilité. Ce genre de distraction n'a pas sa place ici. » « De toute façon, je regarde très peu la télévision, » confia Yasmina. « Je préfère la lecture. Et ici, il me semble être servi. » « C'est vrai. Tu es ici pour découvrir ton immortalité, non pour entendre ou regarder des balivernes, » dit le mage. « Sache que tu as été choisi parmi de nombreuses âmes foulant le sol de cette terre et même parmi un nombre encore plus important évoluant dans des mondes de moindre densité. N'en tire aucun orgueil. Accepte simplement avec reconnaissance cette chance qui t'est donnée de transcender les vicissitudes et la vanité de la vie ici-bas. Il t'appartient d'accepter ou non les enseignements qui te seront proposés au fil des prochains jours et de les mettre en pratique. » Personne ne peut rien t'imposer. L'être humain reste maître de sa destinée, quoi qu'il advienne. Pourquoi moi ? Pensa la jeune néophyte. Et serais-je capable d'honorer une telle sollicitude à mon égard ? Abinabaz avait deviné sa pensée et la rassura. N'aie crainte, ton initiation se fera en douceur grâce à l'oiseau bleu. D'ailleurs, viens avec moi. Le maître invita la jeune fille à le suivre par un long corridor. Ils empruntèrent un escalier de marbre rose en colimaçon et longèrent ensuite l'un des remparts accolés au mur d'enceinte. La chaleur prit Yasmina à la gorge. Même si le soleil était sur son déclin, que dans 2 heures tout au plus il s'en irait mourir derrière l'horizon, l'air surchauffé était toujours aussi accablant. Quelques marches supplémentaires les conduisirent à une vaste terrasse située en léger contrebas. Celle-ci était dallée de pierres blanches et n'offrait qu'un haut perchoir en bois pour tout décor. D'ici, on avait une vue parfaite sur les jardins du palais. « L'oiseau bleu t'attendra demain sur cette terrasse, » annonça Abinabaz, « à 7 heures du matin très précise. Il prendra son envol et choisira d'aller se poser sur l'un des oliviers que tu vois là devant toi. Tu sauras dès lors lequel des maîtres s'adressera à toi. » « Le choix de l'oiseau est dicté par le hasard ?» questionna Yasmina. « Nullement, » trancha le mage de façon convaincante. « L'oiseau bleu est un messager du ciel. Il ne faillit jamais à sa volonté. Il ne fait que suivre ses ordres et ne se trompe jamais. » « Pourquoi ai-je été choisie ? » demanda-t-elle au mage, à nouveau tourmentée par cette question. « Tu le sauras en temps voulu. Je ne peux te répondre avant que tu n'aies réussi toutes les épreuves. Il te suffit de savoir pour l'instant que tu devras convaincre chaque maître de tes aptitudes à recevoir l'enseignement lors de la visite des 7 chambres. Le mystère te sera alors révélé dans son entièreté. « Les 7 chambres, de quoi s'agit-il ? » Ces chambres sont un lieu de transmutation, un vortex spirituel qui mène à la connaissance absolue. La première s'appelle la chambre des miroirs. On y découvre l'une ou l'autre ancienne incarnation et parfois l'esquisse d'une vie future. La seconde est la chambre de l'amour et de la fertilité. On t'expliquera son utilité lorsque tu y seras invité. La troisième est celle de l'ange gardien. On y apprend les rudiments de la sagesse, le sens de la compassion et le respect des forces universelles. La quatrième est la chambre des vertiges. C'est un lieu où l'âme est confrontée à diverses épreuves qui ont pour but de clarifier le mental, de maîtriser les émotions et finalement de vaincre l'ego. La cinquième s'appelle la chambre des souhaits. Elle permet à certains de nos désirs de se réaliser pour autant que le ciel l'autorise. La sixième est la chambre des chiffres. On y apprend la magie des nombres et les lois de la symétrie. Enfin, la dernière est la plus mystique de toutes. C'est celle du Grand Orion. Elle ouvre la porte des mondes invisibles et offre la vue des jardins célestes. Sache encore que tu ne visiteras pas spécialement ces chambres dans l'ordre précité, mais bien dans celui que l'oiseau bleu t'indiquera. Abinabaz en avait terminé pour aujourd'hui. Viens, nous rentrons. Yasmina suivit son guide qui la ramena au seuil de sa chambre. Je passerai te prendre demain matin à 7h10, dit le mage. Sois prête, et que les songes t'emportent vers les plus beaux rivages de cet univers. Abinabaz reprit de son pas paisible le chemin de ses appartements, qui devaient se situer quelque part à l'autre bout du palais, pendant que la jeune fille se laissait tomber sur son lit, complètement chamboulée par tout ce qu'elle venait d'entendre. Où allait la mener cette histoire de chambres initiatiques ? Soudain, une folle envie de s'enfuir au plus vite de cet endroit s'empara de son esprit. Puis, elle se raisonna. Elle ne pouvait décevoir le mage. Elle devait au contraire se ressaisir et se préparer à affronter les épreuves qui l'attendaient. Son destin le désirait certainement ainsi. À 21h, après un dernier repas sommaire livré par le buffet serviteur automatique, Yasmina régla l'alarme de son portable sur 6h et rejoignit son lit. Elle éteignit les lumières, s'endormit très vite et se laissa envahir par une série de rêves en rapport plus ou moins confus avec les événements qu'elle venait de vivre. Juste avant son réveil, avant que son alarme ne retentisse, elle était une petite fille timide, fort embarrassée face à des oiseaux géants qui l'interrogeaient chacun à leur tour sur la signification d'énigmatiques symboles dessinés à la craie sur un grand tableau noir. À 7h15, Yasmina était fin prête. Elle n'avait pris qu'une tasse d'orge au lait pour déjeuner. Elle se sentait néanmoins en pleine forme. Qu'allait-on exiger d'elle ? Allait-elle réussir les épreuves de ce jour ou au contraire se couvrir de ridicule ? Elle était plus que jamais perdue dans ses réflexions lorsqu'Abinabaz frappa deux petits coups secs à la porte de sa chambre. L'instant d'après, le mage lui demanda si elle avait bien dormi. « En dehors de quelques rêves saugrenus, j'ai passé une excellente nuit, » répondit-elle. « Tant mieux, car tu auras besoin de toutes tes forces mentales pour entamer ton parcours initiatique. » Le mage et Yasmina empruntèrent le même chemin que la veille par les remparts. Le ciel était comme frotté de poudre d'or dans les couches les plus basses de l'horizon. La journée s'annonçait torride comme les précédentes. L'oiseau bleu les attendait, immobile, l'œil noir et vif, les serres recroquevillées sur son perchoir. « Notre fidèle serviteur est prêt, » fit le mage. « Il n'attend plus que mon signal. Recueillons-nous quelques instants et remercions les dieux pour leur compassion universelle. » Yasmina avait pas mal à redire concernant cette supposée compassion des dieux à notre égard, mais, vu sa position de néophyte, il était certainement plus sage pour elle de se taire. Le mage leva les cieux vers le ciel irisé, joignit les mains en signe de prière et s'abîma pendant plusieurs minutes dans une profonde méditation silencieuse, comme si sa conscience n'était soudain plus de ce monde et qu'elle avait rejoint le cœur de l'univers. Puis il frappa sèchement dans ses mains. C'était le signal. L'oiseau bleu déploya ses longues ailes dans un bruissement mat et partit d'un vol décidé en direction de l'oliveraie. Il tournoya un long moment, comme s'il attendait une inspiration divine, puis il piqua vers le sixième olivier à compter de la gauche. C'était celui qui correspondait à la chambre des chiffres. Les jambes de Yasmina se transformèrent en coton. Elle eut soudain un trac fou, comme on peut l'avoir avant un examen. et lorsqu'elle suivit le mage à travers les couloirs du palais, c'était comme si on l'emmenait à l'échafaud. Entamer son initiation par les chiffres n'était pas ce qu'il y avait de mieux. On ne pouvait même pire début. Les mathématiques n'avaient jamais été son fort. Lui revint en mémoire le résultat de son dernier examen au lycée, 3 sur 25. La honte ! Un dernier corridor les mena à la chambre des chiffres. Le mage commanda de la voix une lourde porte qui s'ouvrit sous son injonction. La pièce était éclairée par une lumière diffuse dont la jeune fille aurait bien eu du mal à en deviner l'origine, l'espace circulaire étant totalement dépourvu de fenêtres, d'halogènes ou de toute autre source de lumière artificielle. Un siège unique était disposé au milieu de la pièce, devant un grand écran panoramique. Abinabaz la pria d'aller s'y asseoir. « Voici ta première épreuve, » fit-il d'une voix tranquille. « Je te laisse, il m'est interdit d'y assister. » Le mage sort. La porte se referme derrière lui. Yasmina reste seule face à l'écran et ses futurs problèmes, car des problèmes, elle est persuadée qu'elle va en avoir, au propre comme au figuré. Un profond silence régnait dans la salle et celui-ci persista jusqu'à ce qu'une voix grave, profonde, monocorde, portée par un écho et comme venue de nulle part, s'élève dans les airs. Elle lui fit penser à la voix d'un patriarche biblique qui se serait exprimé à travers un long tunnel. « Bonjour, Yasmina. Installe-toi confortablement. Si tu échoues lors de ce premier test, ton parcours s'arrêtera ici. Nul ne t'en voudra ni ne t'accablera, mais tu ne pourras repasser cette épreuve qu'au plus tôt dans 1000 ans. »« 1000 ans ? Autant réussir ce test pour me dispenser d'une aussi longue attente, » pensa la jeune fille. « Choisis un chiffre entre 1 et 10, » fit la voix céleste, et comme si Dieu en personne lui parlait cette fois du haut d'un nuage. « 9 !» répondit Yasmina sans trop réfléchir, sans doute parce qu'elle était née un 9 du 9e mois de l'année et que ce chiffre était pour elle un porte-bonheur. « Très bien !» Et l'écran de s'allumer sur 9 points, se succédant 3 par 3 et sur 3 lignes à égale distance. « Prends maintenant la feuille et le crayon posés sur la table à tes côtés, avec 4 droites, sans lever la pointe de ton crayon, » annonça la voix. « Tu disposes de 2 minutes pour trouver la solution. Je te laisse réfléchir. » Et la voix se tut. « Tu disposes de 2 minutes pour trouver la solution. » Et la voix se tut, laissant Yasmina seule face à ce terrible casse-tête et le bout de son crayon qu'elle se mit à mordiller nerveusement. La sueur commença à perler sur son front. Après 1 minute, elle crut que son cerveau allait exploser. 20 secondes plus tard, elle était prête à rendre les armes quand la solution jaillit comme par miracle dans son esprit. Elle se jeta littéralement sur la feuille blanche, dessina rapidement 9 points et commença par relier le 1er, le 5e et le 9e en diagonale. Elle poursuivit ensuite le trait à l'horizontale, reliant les points 8 et 7. Elle remonta ensuite en diagonale vers le point 2, en passant par le point 4, et descendit à la verticale vers le point 3 et le point 6. Tout ça sans lever la pointe de son crayon. Ouf, elle venait de réussir l'épreuve de justesse. « Bravo !» fit la voix du thaumaturge à travers le plafond. « Pythagore et Archimède auraient été fiers de toi !» Yasmina accepta le compliment et se promit de le ressortir si jamais elle croisait un jour son ancien prof de maths. Le lendemain, seconde épreuve. L'oiseau bleu se posa cette fois sur une branche de l'arbre des miroirs. À 7h10, les ressources d'un nouveau courage poussèrent Yasmina dans la chambre désignée. Même décor, même écran, même siège unique disposé au milieu de la pièce. Et même voix biblique. « Bonjour, Yasmina !» fit la voix. « Aujourd'hui, tu vas avoir un bref aperçu de l'une de tes existences passées, celle qui précéda ta vie actuelle. » La salle fut alors plongée dans une semi-pénombre. Le film pouvait commencer. La jeune fille enfonça son dos dans le creux du fauteuil et une séquence de sa vie d'avant défila sous ses yeux, en relief, en couleur et en ambiophonie. Elle vit la tour de Big Ben qui se dressait au loin dans un léger brouillard, puis des rues tristes ou nettes envahies par des hommes et des femmes qui portaient des vêtements de notre siècle. On devait être aux alentours de l'an 1850, quelque part dans le vieux Londres, celui de Charles Dickens et de la grande époque victorienne. La scène suivante l'amena chez un marchand de cercueils. La porte de la petite boutique dédiée à la mort s'ouvrit. Un jeune homme vêtu d'une redingote sombre entra. Il était accompagné d'une tout jeune demoiselle à la taille fine, vêtue de mousseline noire. Le jeune dandy avança jusqu'au comptoir. « Vous venez pour le choix d'un cercueil, sans qui le croque-mort, qui devait être né stupide, comme si on pouvait pousser la porte de son magasin en vue d'acheter du nougat. »« Oui, répliqua le jeune homme, notre valeureux père vient de mourir. » »« Tout cela est bien triste, lâcha le pourvoyeur de bois funeste en affichant un accablement de circonstances rodé à la perfection. » Il était facile de deviner que l'homme avait vu défiler des cimetières entiers au cours de sa vie, et que la mort était depuis longtemps son aimable et très rentable compagne au quotidien, que dès lors ce n'était pas un macabée de plus qui eût pu l'émouvoir. Le croque-mort invita les deux jeunes personnes à passer en revue la qualité de sa marchandise, c'est-à-dire les cercueils alignés en rang d'oignons au fond de sa boutique. En bon professionnel, il s'étendit sur les différentes sortes de bois, la solidité du coffrage, la qualité du rembourrage intérieur, la résistance des poignées. « Et j'en ai pour toutes les bourses !» fit le marchand de la mort, toujours prêt à faire une ristourne de 5% si on discutait les prix. « Qu'en penses-tu ? » demanda le jeune homme en se penchant vers sa petite sœur. « Je ne sais pas, » répondit celle-ci, « mais je pense que celui-là est très bien et que notre père aurait aimé en disposer pour son dernier voyage. » La petite fille aux boucles blondes désigna timidement du doigt le plus imposant des cercueils. Et le film s'arrêta net. L'instant d'après, les lumières de la chambre des miroirs reprenant leur fonction d'éclairage diffus. Yasmina sut avec une certitude absolue que la blondinette qui accompagnait le jeune Anglais chez cet entrepreneur des pompes funèbres, c'était elle. Abidabas lui apprit qu'elle avait réussi l'épreuve, car Yasmina s'était reconnue et n'avait nullement contesté l'évidence de cette ancienne vie. Elle pouvait donc passer à l'étape suivante. Le lendemain, l'oiseau désigna par son vol la chambre de l'ange gardien. Yasmina devait s'y rendre pour y rencontrer le sien. Quand Abidabas vit l'émotion s'inscrire sur son visage, il ne put s'empêcher de rire. « Ne crains rien, ma chère enfant, tout se passera bien. Tu devras juste garder une attention soutenue à ses paroles. » Et l'ange descendit. Il avait une voix claire et mélodieuse. « Sais-tu qui je suis ? » demanda-t-il de sa voix harmonieuse qui emplissait l'hémicycle. « Abinabad m'a dit que vous étiez mon ange, » répondit la jeune fille. « C'est exact. Je suis l'aile qui te protège et t'accompagne chaque jour sur le sentier de la vie. » L'ange de paix et de lumière qui veille sur ta destinée. Je reste connecté en permanence à tes pensées et t'offre nuit et jour tout mon amour. Je suis aussi le meilleur ami de l'oiseau bleu. Il m'arrive de lui parler, car tous les animaux comprennent notre langage. Nous pouvons de même parler aux fleurs et aux esprits de la nature. Seul bon nombre d'êtres humains restent sourds à nos paroles. Il nous est dès lors bien difficile de leur faire entendre raison, de les guider, de leur montrer la voie de la sagesse. Mais ceux qui apprécient la beauté qui se reflète en toutes choses, les arbres, les ruisseaux qui donnent la vie aux herbes et chantent le bonheur des saisons, ceux qui s'émerveillent à la vue d'un oiseau rejoignant son nid pour nourrir ses petits, ceux dont le cœur est pur comme la neige au sommet des montagnes, ceux-là peuvent nous recevoir. La voix de son protecteur était d'une infinie douceur et Yasmina ressentit qu'il l'enveloppait de toutes parts, tel un cocon bienveillant. L'ange lui parla si longtemps qu'elle en perdit la notion du temps. Et quand elle sortit de la chambre, que le soleil brillait haut dans le ciel, elle avait l'impression qu'il était toujours là, envahissant l'espace par ses rayons de paix, de lumière et de joie éternelle. Cette nuit-là, Yasmina fit des rêves merveilleux. Le mal et la souffrance n'existaient plus en ce monde, toute vie sur terre était baignée d'amour. Le lendemain, Abinabas préféra la laisser à ses réflexions. Il lui fallait s'imbiber de son expérience de la veille. Était-ce la voix de l'ange ou bien ses paroles? Cette rencontre mystique avait instillé en Yasmina quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait encore jamais ressenti auparavant, comme si les verrous de son petit moi étriqué avaient sauté et que l'intemporel avait élu sa demeure en elle. Le surlendemain, l'oiseau bleu hésita longtemps. Il tournoya dans le ciel en faisant des cercles de plus en plus larges. Et il s'éleva tellement haut que la jeune fille crut un moment le perdre de vue. Le serviteur ailé des dieux n'était plus qu'un point infime, à peine visible dans l'immensité du ciel. Puis il redescendit en piqué et se posa sur l'arbre du Grand Orion. Une autre voix, calme et profonde, était au rendez-vous. Elle s'adressa à Yasmina de façon solennelle. « Connais-tu la mort en toutes choses ?» lui demanda-t-elle d'emblée. La jeune fille ne sut que répondre. La mort, celle des autres et la sienne, n'avait jamais vraiment occupé son esprit. Que devenions-nous après cette vie? Elle n'en avait pas la moindre idée. Rien peut-être, le néant pur et simple. De toute évidence, elle avait toujours refoulé la question, car il est plus facile d'écarter ce genre d'interrogation ou de l'estimer sans réponse. « Je vois que ma question t'intrigue, » dit la voix. « Mais nul ne peut venir à nous sans avoir transcendé la mort et compris sa signification. Dans les abîmes de l'oubli, il n'y a rien à retenir sinon l'esquisse à peine éclairée d'une lueur ancestrale. Dans cette lueur, rien n'est à dire ni à découvrir. Le souffle qui suit la respiration et qui se mesure au temps dans la chair pesante parle de lui-même. L'énigme de la mort est sans fondement réel puisque non défini. Ne reste du tout que la vie éternelle, la seule et unique vie, celle qui respire le sacré, la lumière, et qui contient en elle des myriades d'âmes et de constellations. » Le Grand Orion s'exprima ainsi pendant un temps indéfini, emportant Yasmina plus loin encore que les étoiles, jusqu'à des champs d'éternité où la mort n'existait pas, n'avait jamais existé et n'existerait jamais. Bien plus encore que les mots prononcés, c'était la voix qui l'avait emportée. Était-ce cela le souffle mystérieux dont le mage lui avait parlé? Elle crut le ressentir sur sa peau et jusqu'au fond de l'âme. Grâce à lui, elle comprenait pour la première fois sa place réelle dans ce monde. Elle savait que son être était gigantesque, qu'il n'avait pas de frontières, qu'il englobait tout l'univers et qu'avec lui, elle embrassait la totalité des êtres et des choses. Abinabas la laissa une nouvelle fois ses méditations sans la déranger, la priant seulement de jeûner pendant 3 jours. Elle ne pourrait consommer que de l'eau, s'alimenter d'un peu de miel et de pulpe de caroube additionnée de cannelle et de menthe. Le mage lui apprit que l'apôtre Jean s'était nourri ainsi lors de sa traversée du désert. La faim lui tenailla le ventre pendant toute la durée du jeûne, mais Yasmina s'efforça de n'en rien laisser paraître et s'en tint rigoureusement à sa diète. Elle le savait, sa transformation intérieure était à ce prix. L'oiseau bleu la convia ensuite à visiter la chambre des souhaits. C'était la seule chambre où Abinabas pouvait rester à ses côtés. Dès que Yasmina entra dans cette chambre, la voix lui posa cette question. Quel est le plus grand de tes souhaits? La jeune fille ne sut que répondre. Elle n'avait aucun souhait d'abondance, de richesse, aucune envie de célébrité, de précédence par rapport aux autres. Sa santé, peut-être? Oui, Yasmina craignait la maladie, la souffrance, la dégénérescence du corps et de l'esprit. Elle répondit tout naturellement. Ne jamais être malade. Eh bien, je te l'accorde, fit la voix. Jamais dans cette vie tu ne connaîtras de graves maladies et ton esprit demeurera intact jusqu'à ton dernier souffle. » Yasmina eut envie de bondir de joie, mais elle tempéra ses ardeurs et remercia plutôt mentalement le ciel de lui accorder un tel cadeau. Il ne restait plus désormais que 2 chambres à visiter, celle de l'amour et de la fertilité et celle des vertiges. L'oiseau bleu désigna cette dernière en premier lieu. Yasmina se retrouva en présence de la voix qui avait pour mission de clarifier son mental. « Sais-tu qu'en tout homme réside deux êtres ?» lui demanda la voix. Yasmina était confuse et ne voyait pas du tout où cet être qui lui adressait la parole voulait en venir. Elle se résolut néanmoins à fournir la première réflexion qui lui vint à l'esprit. « L'être est complexe, dit-elle. Il est sans cesse tiraillé entre des parties et des options radicalement opposées qui peuvent l'accabler tout au long de sa vie. » Cette réponse est très intéressante, répondit la voix. En tout homme résident deux êtres. L'un sommeille dans les ténèbres et l'autre est assoupi dans la lumière. Aucun d'eux ne voit la réalité dans toute son étendue. Il est pourtant celui qui connaît. Il est le connu et la connaissance elle-même, toute représentation du réel étant faite de ces trois facteurs, l'observateur, l'observation et l'objet observé. Toi et moi sommes un dans la connaissance. Si tu admets que ce corps n'est pas toi, tu n'es pas non plus quelque chose d'autre, ni le personnage qui rêve, ni l'insensibilité et l'inanité dans lesquelles tu plonges lors du sommeil profond. Ton moi véritable est le quatrième état de conscience, différent de ces trois-là. L'état de veille, de rêve et de sommeil profond ne forme qu'un tout chimérique. Seul ce quatrième état représente le réveil, mettant fin aux illusions. Cet état est plus profond que le sommeil profond et en même temps plus éveillé que l'état de veille. Tu ne vis pas parce que ton corps vit, ni ne meurs parce que ton corps meurt. Ton essence primordiale, liminaire, est éternelle. Voilà le vrai savoir spirituel. Yasmina fut éblouie par un tel discours. Mieux, elle fut touchée par la grâce. Au fond d'elle, un déclic d'une ampleur colossale venait de se produire, une porte venait de s'ouvrir sur un monde immense, un monde unique et éternel. Elle savait maintenant que rien ni personne n'existe en dehors de cette réalité-là. Elle rejoignit son appartement en titubant, tant la substance de ce que son esprit venait d'absorber la faisait vaciller. Les endorphines inondaient son cerveau, diffusant dans tout son corps des ondes de sérénité d'une intensité phénoménale. Ce soir-là, Yasmina s'endormit instantanément et passa une nuit sans se souvenir d'aucun rêve, comme si son être avait été nettoyé de fond en comble, imprégné par ce quatrième état de conscience dont on venait de lui révéler l'existence. C'est très bien, fit le mage le lendemain matin dès qu'il la vit. Ton parcours initiatique a été parfait jusqu'ici. Il ne te reste désormais que la septième chambre à visiter pour le parachever en toute beauté. L'oiseau bleu choisit tout naturellement et de façon directe l'arbre qui correspondait à la dernière chambre. Un profond silence s'installa dans celle-ci pendant de longues minutes, si bien que Yasmina se demanda un moment si on ne l'avait pas oublié. Puis, une présence indicible se mit à envahir l'espace, présence qu'elle ressentit jusqu'au fond de ses cellules, car les six premières rencontres lui avaient comme insufflé une réceptivité hors du commun. La voix ultime, celle de l'amour et de la fertilité, lui adressa la parole. « Et maintenant, tu vas devoir ensemencer la terre par ton esprit et celui qui t'a accueilli en ces lieux. Cette union entre toi et lui sera faite de la plus grande chasteté. Il ne s'agit pas ici de l'union de deux corps, mais de deux âmes vertueuses. Cette nuit, sans que tu en sois consciente, ton âme s'unira à la sienne, et cette force, cette fusion énergétique, se répandra bientôt imperceptiblement dans l'esprit de centaines d'êtres humains à travers la planète pour les fertiliser, les amenant progressivement à une plus grande sagesse. Et s'il arrive à quelques-uns de faillir, tu ne les jugeras point, tu les aideras au contraire par la pensée à revenir dans le droit chemin, car rappelle-toi que leurs consciences et la tienne ne sont qu'un seul et même phénomène. Lorsque tous auront compris cela, que tout est un, le monde lui-même s'effacera et ne pourra plus les influencer. » Le séjour de la jeune fille chez le mage touchait à sa fin. Ces dernières journées semblaient n'avoir duré que l'espace d'un instant. Lorsqu'elle fut prête à partir, Abinabaz la serra contre son cœur et lui dit « Tu pourras revenir ici chaque année pour parfaire ton éducation et tes connaissances. Tu seras toujours la bienvenue. » Yasmina pouvait désormais s'en aller, l'âme légère, en vue d'essaimer par l'esprit l'essence des connaissances extraordinaires qu'elle venait d'acquérir. Le mage la félicita encore une fois d'avoir si brillamment réussi toutes les épreuves et lui offrit des gâteaux de miel, des variétés de baies sauvages, de la compote de figues, quelques grappes de raisin, ainsi que de l'eau en suffisance pour la nourrir et la désaltérer pendant la traversée de la grande étendue de sable brûlée par le soleil. Et avant que Yasmina ne prie Kali de se mettre les genoux à terre afin de l'enfourcher aisément, Abinabas glissa une fine brindille d'olivier dans ses cheveux. C'était sa façon de lui témoigner toute son affection et de lui octroyer sa bénédiction pour le long voyage de retour qu'il attendait. Et Yasmina se réveilla, abasourdie, incrédule, encore sous l'emprise envoûtante de ce rêve incroyable qu'elle venait de faire. Comment son esprit avait-il pu échafauder une telle aventure? Un rêve aussi enchanteur, aussi précis, chargé d'autant de détails. Et son étonnement était à la mesure de sa déception. Ainsi, ce conte, toute cette histoire, n'était finalement que le fruit d'un songe. Elle aurait pourtant juré être partie il y a quelques jours à peine, en direction du désert, à la rencontre de ce fameux mage, persuadée d'avoir assisté aux envols de l'oiseau bleu, persuadée d'avoir conversé longuement avec son ange gardien. Où la réalité s'était-elle arrêtée? Quand le rêve avait-il pris sa place? Non, non, et trois fois non, c'était impossible, elle ne pouvait avoir rêvé tout cela. La tête étourdie, la jeune fille se leva d'un pied lourd. Une nouvelle et dure journée l'attendait. Elle devait être au bureau à 9h et il était déjà 8h10. Elle n'avait pas une minute à perdre. En passant devant la porte d'entrée de son appartement, où les gosses d'à côté s'époumonnaient à cœur joie comme chaque matin, elle remarqua un petit Bristol qu'on avait glissé dessous sa porte. Elle se baissa, le ramassa, le lut. Il y était écrit « J'espère que tu as bien dormi et que tu as fait un très beau rêve ». La carte était signée « Abinabas ».